Je suis ravi de pouvoir intervenir dans ce colloque. Je ne vais pas vous parler d'espace et de lieu. J'ai beaucoup apprécié toutes les contributions qui sont là. Je vais vous parler beaucoup d'émotions, parce que c'est ça qui m'intéresse en fin de compte. Et je vais prendre le prétexte de l'analyse économique pour cadrer un sujet qui est à mon sens, d'importance et qui est un peu symptomatique de quelque chose, à savoir comment l'émotion peut... comment l'émotion peut changer une façon de voir en économie. Alors c'est d'autant plus intéressant que l'économie, c'est la science de la rationalité, la science des choix. C'est une science qui est basée, et on dit que c'est une science, hein, c'est comme ça qu'on l'a définie, qui porte sur l'individualisme méthodologique et qui présente l'analyse à partir notamment d'une motivation particulière qui est l'intérêt. C'est intéressant de voir comment l'émotion va pouvoir basculer ou pas vers une autre façon de percevoir l'économie. Alors, je vais commencer par parler un petit peu du tournant émotionnel, c'est ça qui m'intéresse, mais plutôt dans une vision très interdisciplinaire au départ. Le tournant émotionnel, c'est finalement, Cerisi l'évoque très très bien, c'est un très grand engouement avec un grand renouveau dans beaucoup de disciplines de l'interrogation autour des émotions. Alors c'est parti de deux ouvrages essentiellement, c'est ce que nous disent les historiens, c'est eux qui ont accroché ce mot de tournant émotionnel, deux ouvrages d'Antonio Damasio qui est a priori assez reconnu, qui est énormément cité dans la littérature dans toutes les disciplines, et puis qui a remis au goût du jour, hein, parce que c'était finalement pas si nouveau, mais il a apporté une notoriété à cette idée que l'émotion et la raison marchent plutôt de concert dans ce qui est la prise de décision, et non pas l'idée effectivement que la raison prime. Donc c'est quelque chose qui a un peu révolutionné. C'est pas une idée si nouvelle, en philosophie, c'est quelque chose qu'on savait déjà depuis longtemps, beaucoup d'auteurs en avaient parlé. Mais ça a donné une forme de notoriété à cette idée. Après, il y a un autre auteur qui, effectivement, a donné du grain à moudre, et surtout parce que ça a été un peu popularisé, c'est la question de l'intelligence émotionnelle qu'on retrouve aujourd'hui dans le travail émotionnel et toute cette préoccupation autour de l'émotion. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la théorie des émotions, ça a été évoqué très très largement dans plein de disciplines. Beaucoup sont absentes, mais beaucoup ont intégré effectivement l'émotion sous une forme de renouveau. Hein, parce que en philosophie, c'est pareil, l'émotion, on en a parlé beaucoup, mais il y a aussi une forme de renouveau dans ce champ-là. En sociologie, en psychologie, il y a des vieilles, il y a des vieilles disciplines qui remettent au goût du jour cette idée, puis il y en a d'autres qui le recentrent à nouveau, ou qui en parlent davantage, comme le droit, par exemple, hein, où maintenant on évoque effectivement les émotions du juge, ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment un renouveau qui est intéressant. En sciences politiques, par exemple, et qu'aujourd'hui, tout ce qu'on pourrait raconter au niveau des types d'émotions, qui sont des émotions de rivalité dans les relations commerciales, dans les relations internationales, avec évidemment des spécificités. On peut raconter une anecdote. Quand Poutine il a invité Merkel pour discuter d'un certain nombre de choses, il l'avait invité dans son bureau, il avait un chien qui était un énorme Doberman, et il l'avait fait à dessein, parce qu'en fin de compte, Merkel, quand elle était petite, elle avait été attaquée par un chien. Et en fin de compte, Poutine, il a fait exprès de la mettre dans cette situation-là. C'est ce qu'on appelle l'usage de la peur, en fin de compte, en politique. Et il y a bien d'autres exemples qui montrent que tout ça peut avoir beaucoup d'influence. Le 9 septembre, hein, le 11 septembre 2001 est une façon aussi de voir la portée politique d'un certain nombre d'affects. Dans toutes les disciplines, on les retrouve avec des choses parfois très, très étranges. Hein. On peut parler d'émotions dans l'univers des mathématiques, dans l'univers de la musique, de l'art, beaucoup dans l'art, dans la littérature. On peut revenir sur l'existence des émotions chez Homère. Enfin, il y a une littérature qui est extrêmement abondante et très, très diverse dans toutes ces disciplines. Donc il y a un renouveau qui est vraiment intéressant, et puis vous voyez que j'ai pris un petit code couleur parce que je crois qu'il y a une petite façon de départager les disciplines dans la manière dont est envisagé le rôle de l'émotion, et vous voyez que l'économie est plutôt à rapprocher de la psychologie, des neurosciences, de la biologie, et puis je m'expliquais un petit peu là-dessus. Je crois qu'on peut faire, alors c'est un peu schématique, hein, et vous n'allez pas vous y reconnaître sans doute, mais je crois quand même qu'on peut faire une petite opposition, en tout cas au moins historique, entre deux conceptions de l'émotion qui sont un peu opposées. Une première conception qui est effectivement l'idée que l'émotion va être quelque chose qu'on va pouvoir vraiment décortiquer, qu'on va pouvoir analyser, qu'on va pouvoir évaluer de façon un peu précise, voilà, en mettant en place des catégories, c'est notamment dans les sciences du vivant ou dans les sciences expérimentales que l'on fait ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans les années 30, au moment où l'émotion est devenue un objet véritablement d'études, notamment dans le laboratoire, bah, ce n'était pas très évident parce que l'émotion était très, très, très mal connotée, en fin de compte, hein. C'était quelque chose qui était associé à, effectivement, l'irrationalité, c'était associé à l'émeute parce que l'émotion, voilà, dans son terme historique, c'était aussi associé à ça. C'était associé au féminin, alors ça là, c'est pire. Évidemment. Et la manière d'avoir pu intégrer l'émotion, c'était par la technique, en fin de compte, par la mesure. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on a donné une certaine forme de notoriété, notamment en psychologie, à l'émotion. Et donc, ça veut dire que dans ces domaines-là, les mesures sont très importantes, hein, mesure des expressions, mesure électrodermale, et puis. Bon, en neurosciences, l'IRM ou des choses comme ça. Et puis il y a une deuxième conception qui est un peu différente, qui est beaucoup plus adressée aux sciences humaines et sociales. Je dirais que, bon, de ce que j'ai entendu ici jusqu'à présent, c'est plutôt cet univers-là qui est partagé par l'ensemble de la communauté de Cerisy, pas systématiquement, mais il y a quand même plus l'idée que l'émotion, c'est un concept un peu diffus, beaucoup plus diffus, qui est plus difficile à catégoriser, plus difficile de faire entrer dans un moule particulier, au travers effectivement d'un discours qu'on va pouvoir formuler. On parle de tonalité affective, de sentiments, on parle de différents types d'émotions. Et donc on a quelque chose qui est une sorte de spectre, de continuum, auquel j'adhère assez d'ailleurs, hein, pour dire les choses simplement. Mais il y a une forme historiquement, de césure. Encore une fois, elle est caricaturale, hein. Elle est trop opposée. Mais il y a quand même quelque chose qui est là. Alors, ce qui me paraît vraiment intéressant aujourd'hui, et c'était intéressant que Jacques soit là pour parler de la neurologie et de l'architecture, c'est que les domaines sont en train de se rapprocher. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui devient plus perméable entre cette conception première d'une venue des sciences du vivant et puis une conception qui serait plus celle des sciences humaines. On a l'impression que il y a un rapprochement, il y a une étanchéité qui est en train de disparaître. La question, par exemple, de la plasticité, hein, typiquement, c'est ça que ça veut dire la plasticité. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement dans le neurone qui est isolé, mais qui va pouvoir évoluer au fur et à mesure de la vie du cerveau au travers de l'environnement, de l'apprentissage. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant parce que ça me paraît être nécessaire en ce qui concerne un objet qui est celui de l'émotion. Là, par rapport au colloque, il me semble qu'on a assez peu parlé de mesures. Et la question a été souvent posée de se dire, bah, tiens, ça aurait été intéressant d'avoir une mesure de ce qui est véritablement le ressenti. Je crois que, par exemple, à un moment donné de la session sur la réalité virtuelle, hein, il y avait potentiellement ce questionnement, et je crois que même dans le rendu hier de l'expérience qui a été menée, il y avait aussi quelque chose qui aurait pu être de l'ordre de la mesure qu'on aurait aimé avoir ou éventuellement entendre. Alors, l'économie appartient plutôt effectivement à cette première branche, tout simplement parce que. Il y a des économistes rationalistes qui se sont intéressés aux émotions, mais dans la mouvance qui est un peu nouvelle en économie, c'est au travers de cette nébuleuse qu'on appelle la nébuleuse de l'économie du comportement que l'interrogation sur les émotions est venue vraiment, avec évidemment la montée à partir des années 50 de la psychologie économique. Alors, connaissez peut-être certains noms quand même, Herbert Simon, Daniel Kahneman, et puis l'économie expérimentale. Hein, l'expérience en économie qui est très nouvelle à l'époque. Hein, on pensait, l'économie, bah non, jamais on pourra faire ça, et pourtant on le fait. La neuroéconomie qui draine énormément d'argent, hein, parce qu'évidemment, c'est une association assez fructueuse avec les neurosciences. Et puis quand même avec l'idée effectivement qu'on est autour de modèles de comportement, c'est-à-dire que les observations en laboratoire, ou éventuellement sur le terrain, ce qu'on fait, les économistes font maintenant comme les psychologues, hein, ils sont aussi sur le terrain, bien, c'est des choses qui tendent à essayer d'améliorer, d'amender les modèles. Donc, y a cette idée que on a construit une économie des émotions, je dirais, une étude des émotions en économie à partir de la psychologie et à partir de la mesure, hein, ce qui convient bien à l'économiste. Alors, ça s'est fait progressivement. Il y a des émotions qu'on a privilégiées, bien sûr. Les émotions que les économistes ont privilégiées au départ, ce sont celles qui rentraient le plus dans le moule de l'économie mathématique des économistes, des émotions, vous voyez, qui sont assez conceptuelles, hein, qui sont assez liées à la cognition, et ça fonctionne bien. Bon, l'intérêt, évidemment, je dirais que c'est finalement, on peut reprocher aux économistes de pas traiter de ne pas avoir intégré les autres émotions que celles de l'intérêt, finalement, et puis celles de l'envie aussi. Et pour moi, l'envie et l'intérêt, ce sont les deux émotions du XXe siècle, en fin de compte, chez les économistes, et en règle générale, d'ailleurs. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, il y a, voilà, c'est un texte, c'est une roue des émotions qu'un économiste a repris pour montrer que, finalement, les économistes, maintenant, s'interrogent sur plein d'autres émotions. Et c'est vrai qu'il y a une grande diversité de littérature. Il y a une explosion du domaine, en fin de compte, aujourd'hui. Mais c'est quand même assez récent. Hein. Les économistes ont pris le train en marche. Alors, après, chez les économistes, il y a effectivement au départ une vision très fonctionnaliste de l'émotion qui passe par la vision des psychologues, l'émotion étant multicomposante, associée notamment au corps, à la croyance, à la pensée, puis à l'action, hein, c'est la tendance à l'action. Parce que bon, les économistes s'intéressent beaucoup au comportement. Donc effectivement, le corps, c'est le signal, hein, le signal de quelque chose. Et puis l'action, la tendance à l'action, mais évidemment, c'est toute la prise de décision qui est là chez l'économiste. Et en règle générale, les économistes sont beaucoup calés sur ces trois éléments-là. Et puis ils oublient très largement ces dimensions-là. On a beaucoup de mal à les intégrer, c'est-à-dire effectivement ce qui est l'enjeu du colloque, par exemple, hein, la question du lieu, de la mémoire, de l'imagination, et du rapport au temps, en fin de compte, aussi, qui est absolument fondamental par rapport à l'émotion. Donc, il y a quelque chose qui est un peu manquant. Et évidemment, tous les enjeux de culture et de société que les sociologues connaissent très, très bien. Donc ici, il y a, à mon sens, un enjeu pour les économistes à intégrer l'émotion, c'est justement de faire le pont entre l'individu et puis la société au travers d'un outil qui n'est proprement que cela, en fin de compte. L'émotion, à mon sens, et c'est la définition qui me convient le mieux de ce qu'est l'émotion. Alors il y a toute une littérature qui en parle, hein, que ce soit en psychologie, en philosophie, en anthropologie, en neurosciences. Hein. L'idée que l'émotion, c'est une forme de relation, en fin de compte. Hein. C'est ce qui nous lie, c'est ce qui est le révélateur d'une forme de relation, qui en est aussi le constructeur, l'incubateur. Alors, moi, j'ai fait par manque de temps, et puis c'est très bien parce que c'est très, très révélateur pour ceux qui ont vu le film. C'est un film qui s'appelle Vice Versa, où effectivement on est dans la tête de cette jeune fille, Riley, et dans la tête il y a certaines émotions que vous voyez apparaître en haut, qui sont effectivement la colère en rouge, hein, le code couleur est intéressant. Et d'ailleurs, l'émotion est très proche de l'analyse de la couleur, c'est une bonne façon de la voir. Et puis, effectivement, dans cet univers-là, les émotions vont être comprises à la fois sur le plan cérébral, mais aussi beaucoup dans la dynamique temporelle, dans la dynamique de la mémoire. Vous voyez que les boules de couleur sont des boules mémorielles. C'est très très proche finalement de ce que nous a dit Damasio hein, sur la façon dont le corps se teinte d'émotions qui restent dans le corps et qui font rappel à des souvenirs et qui sont mobilisés à certains moments pour une prise de décision. Bien, ici c'est à peu près pareil avec effectivement des espaces de lieux. Vous voyez au fond, ce sont la construction de ce jeune enfant avec l'espace de la famille, l'espace ensuite de l'école et puis etc. C'est des lieux où se construisent un certain type d'émotions. Donc c'est un joli film qui parle de ça et qui permet de mieux comprendre effectivement ce qu'est l'émotion. Je passe sur tous les auteurs qui en ont parlé, ils sont assez nombreux. Alors après, il y a une autre façon de voir effectivement cette question de la cognition incarnée, c'est-à-dire le lien entre la cognition et le corps, qui est importante dans cette question de la relation. Ici, c'est de la philosophie. Les philosophes se sont mis à l'expérimentation, c'est des expériences de pensée, mais qui sont soumises à des participants, avec quelque chose qui est assez connu, hein, c'est le dilemme du tramway. Là, on pose la question aux participants, ben, voyez, vous êtes à la place de cet aiguilleur, voyez le tramway arriver, débouler, il va écraser 5 personnes, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez moralement le droit de détourner le tramway? Vous allez écraser une autre personne? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous feriez dans cette situation? Est-ce que c'est moral de le faire ou pas? Et les résultats bon, sont assez clairs, en accord avec ce que dirait l'économiste, parce que l'économiste serait utilitariste. Évidemment, il vaut mieux sauver 5 vies en sacrifier une, plutôt que le contraire. Et c'est ce que répondent les participants en général. C'est peut-être pas ce que vous auriez fait vous-même, mais en général, c'est ce que font les gens. Alors, c'est pas ça le cœur c'est pas ça le cœur de l'interrogation. C'est ce qui suit qui est intéressant. Parce que. Et alors, on peut tout de suite raisonner, parce que si c'est un enfant, etc., mais on va pouvoir, l'économiste va pouvoir dire, peut-être, on pourrait raisonner en termes d'années, par exemple, hein, parce que si c'est 5 vieux et puis une personne plus jeune, bah, ça sera vite plié, hein. Bon, on peut raisonner en espérance, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, vraiment, c'est ça qui suit, c'est-à-dire qu'on a exactement le même type de décision. Vous devez pouvoir ici sauver 5 personnes et en sacrifier une parce qu'il y a un gros bonhomme sur le pont. Vous êtes à la place de la personne qui est derrière et vous savez que si vous poussez ce gros bonhomme, le tramway va buter sur ce corps et évidemment le faire disparaître. Mais vous aurez sauvé 5 personnes. Alors qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Est-ce que vous avez moralement le droit de pousser l'homme? Du point de vue utilitariste, on est d'accord, c'est la même réponse. Hein, donc il faudrait avoir une cohérence. Mais cette cohérence, elle n'est pas claire du tout, parce que vous pouvez vous en apercevoir, évidemment. Là, on n'est pas du tout dans le même registre. Alors, les neurosciences sont intervenues, on a fait passer ce test, et on s'aperçoit finalement que c'est la dimension affective qui joue ici, et en particulier le sens du toucher, qui apparaît plus complexe, hein, c'est effectivement le fait de pousser. Alors il y a d'autres interprétations hein, qu'on peut donner. C'est juste l'idée que je souhaitais avancer, que dans des décisions qui sont de celles de la moralité, mais on retrouve ça pour beaucoup de décisions, l'émotion joue beaucoup, et nous faut y basculer, notamment lorsque le contexte change. Alors, je vais passer ensuite assez rapidement, parce que je crois que j'ai plus beaucoup, beaucoup de temps, mais je parlais quand même un peu d'économie. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le célèbre dilemme du prisonnier. En théorie des jeux, c'est une façon de représenter le conflit entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Parce que vous voyez que dans cette situation-là, tout le monde a intérêt. Alors, il y a deux joueurs, il y a des stratégies, une stratégie de coopération, une autre qui est de défection. En général, bon, là je vais passer très très vite, on montre assez simplement que chacun a intérêt à faire défection en fin de compte. Et c'est très puissant parce que vous avez intérêt à le faire quoi que fasse l'autre. D'accord? Si vous prenez le joueur I, quoi que fasse l'autre, hein, puisque vous avez les gains entre parenthèses dans la matrice qu'on appelle la matrice de gains, vous avez toujours intérêt à faire défection. Alors c'est imparable, hein, parce qu'évidemment, quoi que fasse l'autre, vous avez intérêt à faire défection. Et le problème, c'est que vous voyez qu'en termes de gains, c'est la solution qui est la pire. Hein, chacun gagne un, alors que on se serait mis d'accord, on aurait coopéré, et ben on aurait gagné deux. Bon, c'est des situations que vous connaissez très très bien. Le matin, quand vous prenez votre voiture parce que vous êtes pressé, vous savez que peut-être que ça serait mieux que vous preniez les transports en commun. Mais bon, ben voilà, là vous êtes pressé, et puis de toute façon, là vous en avez marre, vous avez envie d'écouter la radio dans votre voiture, c'est beaucoup plus sympa. Et puis pendant ce temps-là, la planète se meurt parce qu'effectivement, voilà. Mais bon, c'est pas grave, d'autres feront ça à votre place, j'imagine. Bon, bref, c'est typiquement dans les relations commerciales internationales, hein, aujourd'hui. Bon, le passager clandestin, c'est Trump. Hein. On est clair que sur tous les niveaux, il est à fond. Et bon, on a des problèmes de coopération. Donc ici, vous voyez qu'on peut assez facilement réintégrer la question des émotions, parce qu'il suffirait tout simplement de prendre en compte les gains des autres. Et c'est ce que propose effectivement cette approche de Van Vieden. C'est assez simple pour faire ça. Donc bon, je vais m'arrêter juste pour finir par dire que on peut intégrer les émotions des autres tout simplement parce qu'on prend en compte dans la fonction d'utilité le gain des autres. Et ça permet simplement de rétablir une possibilité de coopération. Et je m'arrête là sur cette dernière phrase. Ce qu'on va pouvoir montrer, ouais, je vais quand même vous montrer une équation. C'est que, mais c'est pas pour impressionner, c'est pour montrer justement que c'est comme ça que les choses sont calées. La dynamique affective du modèle va pouvoir prendre en compte les liens affectifs entre les personnes dans une perspective temporelle qui correspond effectivement au comportement que les individus vont avoir. Et c'est là que c'est intéressant parce que la dynamique affective est intégrée complètement dans la modélisation aujourd'hui. Donc, ce sont des modèles qui permettent de penser qu'on va pouvoir sortir autrement de l'absence de coopération, en fin de compte. Voilà, merci.
Merci.